Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Depuis quelques années, c'est la folie des papiers peints, et s'il y a bien une petite marque qui a sorti son épingle du jeu, c'est Peppermint. Créée par un duo père-fille, c'est Alexandra, la directrice de la création, que je reçois ce matin à l'hôtel Panache. Sous son impulsion, Peppermint crée des revêtements muraux, tour à tour graphiques, rétro, féminins juste ce qu'il faut et parfaitement dans l'air du temps. Ces jolies collections sont fabriquées dans leurs ateliers parisiens qui viennent justement tout juste de s'agrandir. Bonjour Alexandra.
Bonjour Hortense.
Alors je viens de le dire, vous travaillez avec votre père, c'est un point qui est très intéressant, donc on va commencer par ça parce que j'ai rencontré beaucoup de duos mari-femme mais pas encore le père-fille. Alors comment ça se passe, comment et pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble ?
L'aventure avec mon papa a commencé il y a 10 ans. On a commencé à travailler ensemble en fait à la fin de mes études ou presque, ouais, pendant mes études où j'avais des petits projets de design graphique à faire et il m'a aidé à faire une facture, à gérer un projet et de fil en aiguille, de petits projets à faire ensemble et on a commencé à travailler ensemble.
Donc vous lui avez proposé de travailler avec lui ou c'est lui?
Ça s'est fait... Honnêtement, c'est à 10 ans, j'ai l'impression que c'est déjà il y a très longtemps. Ça s'est fait naturellement. Je pense qu'à l'époque, il avait envie d'autres choses aussi, de nouveautés. Et il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans ce milieu-là.
Alors, vous, quel est votre parcours à vous? Comment vous avez créé ensuite? Comment a commencé l'aventure Peppermint?
Alors, l'aventure Peppermint, elle a commencé et elle est née en fait il y a 3 ans officiellement. Il y a 4 ans pour démarrer le projet. Avant, on avait une petite agence de communication, de design graphique. On travaillait sur des projets d'identité, d'univers, de création, de décors également. Mais on ne créait pas nos dessins et on les proposait pas pour les clients. C'était du sur-mesure pour les clients. Un jour, on a eu un déclic avec Lisa Gachet de Make My Lemonade où elle avait envie d'une lune dans son salon. Et on s'est dit, on va essayer de la fabriquer, de la créer. Donc on l'a créée pour elle. Et là, ça a été un déclic par rapport à la communauté qui disait, mais c'est génial, où est-ce qu'on peut la trouver? Et on a vu qu'il y avait un réel intérêt pour un nouvel intérêt pour le décor mural, créatif, original, qui s'impose. Et de là, était l'idée de proposer des décors muraux à une clientèle.
Où vous avez voulu créer uniquement du papier peint, vous trouviez qu'il manquait quelque chose sur le marché?
Ouais, on ne se définit pas comme créateur de papier peint, mais comme créateur de décor, d'univers, parce que le papier peint est connoté, vintage, ancien, pas forcément le plus sexy, mais du coup, on veut vraiment proposer des univers. Par exemple, cette lune, ça donne un ton, une tonalité, et ce n'est pas un papier peint. Après, c'est un revêtement qui peut être en adhésif, en papier, en tissu. L'idée, c'est vraiment de proposer des décors.
Et dans votre agence, du coup, vous aviez déjà les compétences des créatifs pour imaginer ces décors et le matériel. Vous avez dû investir ces grosses imprimantes. Vous allez sûrement nous en parler dans la fabrication du papier peint, mais vous aviez tout ça?
C'est vrai que c'est venu au fur et à mesure. On avait l'expérience graphique. Moi, c'est ce que j'apportais énormément. Et on avait aussi des créatifs et graphistes qui venaient travailler avec nous. Après, sur la partie technique, on a grandi et évolué avec une petite machine, une plus grosse, et ainsi de suite. Et le savoir-faire s'est développé au fil de ces années. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme boom il y a un peu plus de 10 ans sur l'impression grand format, qui a aussi permis à nous comme à d'autres de pouvoir proposer des décors à l'unité, ce qui n'était pas possible avant.
Alors pourquoi Peppermint? Pourquoi ce nom?
On avait envie de connotation quand même au papier, au support, ce qui est la référence, et qu'on venait avoir un petit twist avec le mint qui pour nous était la fraîcheur, et c'est ce qu'on continue d'apporter, je pense, dans cet univers.
Alors, comment on crée un papier peint? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le procédé de fabrication?
Alors, pour créer un papier peint, en tout cas chez nous, on va commencer avec une idée. Cette idée, on va la challenger, on va voir ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on veut aller. De là, on va faire des recherches graphiques, plastiques, historiques, artistiques. Et de là, on va créer un dessin. Ce dessin-là, on en est content, on dit ok, on continue de travailler là-dessus. Ce dessin, il a une forme, souvent carrée ou rectangle, mais il faut qu'il devienne un papier peint. Il faut qu'on puisse le répéter, il faut qu'on crée un raccord par exemple, un raccord entre la droite et la gauche pour que quand on va poser nos lettres de papier peint, ça puisse se raccorder. De ce carré ou de ce rectangle, on va créer un fichier d'impression avec une longueur donnée, soit on va partir sur 3 mètres, sur 10 mètres, ça dépend de comment on va l'exploiter derrière. Après avoir créé ce fichier, on répète le motif, autant de répétitions dont on a besoin. Ce fichier d'impression, on va l'envoyer sur un autre ordinateur qui va, on appelle ça sur un RIP, c'est le logiciel qui va envoyer les données aux imprimantes. Et de là, on va pouvoir lancer la première impression. Avec cette première impression, à taille réelle, on va pouvoir voir si les couleurs nous conviennent, si les proportions, l'échelle nous convient et adaptée à ce qu'on avait en tête. Et ensuite, si on n'est pas content, on continue, on repasse à la moulinette graphique, on évolue et souvent c'est ce qui se passe, il y a plein d'éléments qu'on n'avait pas prévus. Et quand on est content, ça part sur le site internet et c'est proposé à notre clientèle.
Et c'est parti.
Voilà.
Vous défendez une production artisanale, vous venez d'effleurer l'idée, ça veut dire quoi dans la réalité? Donc vous créez, vous fabriquez dans votre atelier, j'ai bien compris, mais quelle différence par exemple avec d'autres marques qui ont des procédés industriels?
Nous aujourd'hui on défend même deux types de fabrication. La fabrication industrialisée pour avoir une offre de volume standardisée qui correspond aussi à un type de marché et connu d'une clientèle. Mais aujourd'hui, on s'est aussi démarqué, et c'est pour ça que je pense que Peppermint a évolué dans cet univers, c'est de pouvoir proposer au public un papier personnalisé sur mesure. On va proposer un décor, un dessin, une illustration, on va proposer un type de support différent, adapté en fonction de besoins différents, et on va aussi proposer la dimension, l'adaptation à la taille du mur ou d'une pièce. Et de là, on peut aussi aller jusque du sur-mesure complet, on peut créer un dessin, on a différentes demandes de ce type-là. Voilà, donc on peut aller du personnalisé au sur-mesure. Et aujourd'hui, dans nos ateliers, on fait de l'impression numérique, grand format, qui est fait manuellement, artisanalement.
Donc moi, par exemple, si j'ai envie de refaire un bureau, tout un pan de mur, je peux choisir mon décor, la dimension, et vous pouvez répondre à ma demande.
C'est ça, on peut même jusqu'à aller créer un dessin pour vous.
Alors, quel métier se cache dans un atelier?
Alors, un atelier chez nous, en tout cas, chez Peppermint, on est une équipe de 4 à 5 personnes. On va avoir les opérateurs, ceux qui manipulent et qui gèrent les machines d'impression, de découpe, de filmage. On va avoir quelqu'un qui va piloter le planning, qui va faire le pivot entre toutes les personnes de l'équipe et aussi le SAV pour pouvoir répondre aux demandes. Et une graphiste pour la PAO, la création de fichiers, des plans de pose et des suivis de projet.
Donc vous n'avez pas forcément beaucoup de stock, vous répondez beaucoup à la commande.
Exactement.
À quoi elles ressemblent les machines? C'est des imprimantes qui sont gigantesques ou pas du tout?
Aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles n'étaient pas gigantesques. Et là, on en a reçu une il y a quelques semaines à peine. Elle est passée par la fenêtre, tellement elle était énorme, parce qu'on est au premier étage, avec une grue. C'était impressionnant. C'est passé à 10 cm. C'était la première fois qu'ils faisaient ça et qu'ils l'a montée. Elle fait 5 mètres. C'est un bon bébé et c'est vrai que pour nous c'est une étape supplémentaire dans cette...
Et vous achetez des rouleaux en conséquence qui sont aussi
exactement
larges.
Et là on prend de plus en plus grand.
Donc vous utilisez tout à l'heure, vous en parliez, les encres écolabellisées à base d'eau, donc c'est moins toxique pour les personnes qui travaillent à l'atelier, mais est-ce que c'est quelque chose qui est attendu aussi par le consommateur? On parle beaucoup des peintures écologiques, ça tend aussi à ça dans le papier peint,
oui,
dans l'univers du papier peint?
Complètement, en fait, aujourd'hui, on a, comme cette technologie s'est démocratisée, l'impression grand format, à la base, était plutôt destinée à la signalétique. Donc, on n'avait pas ce besoin intérieur. Et du coup, les fabricants, ils se sont penchés sur ce problème, que c'était une problématique, pour pouvoir ouvrir ces possibilités au grand public et du coup, dans le domaine familial, bureau et autres. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette technologie.
Alors, vous vendez plusieurs sortes de papier peint et notamment du prêt en collé, qui est votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Bah, c'est génial déjà. En fait, il y a déjà de la colle au dos des papiers qu'il faut réactiver avec un simple spray. Et ça permet pour, par exemple, quelqu'un qui a une petite surface ou qui ne veut pas s'embêter avec de la colle, de pouvoir prendre le papier, prendre un peu d'eau et le poser assez rapidement en fait.
Donc on est tous capables de poser du papier peint. Il n'y a pas forcément besoin de passer par un entrepreneur ou... parce qu'on s'en fait toute une montagne de poser
peint. C'est un savoir-faire. J'ai envie de dire, il faut aviser en fonction de l'espace qui est donné. Si on a un carré qui n'a pas d'embûche, qui n'a pas trois fenêtres, deux portes, enfin des éléments qui peuvent complexifier la pose, j'ai envie de dire, on peut le faire tout seul, surtout avec cette technique. Après, ça reste un savoir-faire. Et une bonne pose, ça se voit aussi.
quel conseil vous donneriez pour bien poser du papier peint ?
Avoir les bons outils et peut-être être aiguillé par quelqu'un qui en a déjà fait. C'est quand même déjà une bonne aide.
Comment on choisit un papier peint à part un critère de style ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques à étudier selon ses besoins ?
Alors, si on regarde au-delà de l'aspect esthétique, on peut avoir des besoins, par exemple, dans une salle de bain. Ça se fait de plus en plus de mettre du papier peint dans les salles de bain. Et donc là, on va avoir des types de papier. Par exemple, on en a un qui s'appelle un fiberglass, donc c'est avec une fibre de verre, qui résiste à l'humidité. Et bon, par exemple, ça, c'est un critère assez important. C'est savoir l'aspect esthétique, le style qu'on veut donner, mais aussi l'environnement dans lequel on veut le poser.
On n'ose pas forcément mettre du papier peint, on en voit beaucoup hein, dans les restaurants, les magazines, je le disais en introduction, c'est un peu la mode du papier peint. Chez soi, j'ai l'impression qu'on peut se limiter. Quels arguments vous auriez pour nous motiver à se laisser séduire ?
Je vais prendre les arguments de mon papa qui disait dans les pays nordiques, ils changent leur décoration tous les 2 ans environ, plus par rapport, je pense, à la météo et du fait qu'ils prenaient vraiment soin et l'univers dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, la décoration, on a envie d'évolution et de personnalisation et on ne veut pas forcément que ça ressemble au catalogue ou la déco de chez le voisin. Et le fait d'avoir de proposer des petites surfaces avec un style différent, ça permet de personnaliser et de choisir son goût et ce qu'on aime en fait.
Vous vendez aussi des fresques, autrement appelées panoramiques parfois. C'est quand tout un mur est donc recouvert d'un décor, c'est aussi très tendance. Est-ce que vous comprenez ce phénomène ? Pourquoi il n'y en avait pas plus avant ?
Je dirais que ça a dû s'étendre avec les techniques d'impression. Parce qu'avant, pour avoir un panoramique, je pense qu'il y avait une histoire aussi de budget. C'est pas fabriqué de la même manière et ça avait un coût. Aujourd'hui, avec cette technologie, ça a permis de pouvoir faire à l'unité un coût plus raisonnable. Ça reste quand même un budget. Et aussi, les gens se lâchent parce que ces décors-là, ils sont impressionnants, étaient un peu réservés à des grandes pièces, à de l'hôtellerie, du restaurant, et en fait les gens se sont dit « Ah, mais on peut aussi avoir ça chez nous », et en même temps ça fait tellement voyager que je pense qu'on s'est dit « Bah pourquoi c'était pas plus tôt ?»
Vous avez aussi remis au goût du jour le sticker. Moi c'est comme ça par ce produit que je vous ai connu d'ailleurs, parce que je trouve ça canon. Vous proposez des petits stickers en 20 par 20 cm qui reprennent les codes de vos papiers peints et qui permettent de recouvrir des carreaux de salle de bain ou se créer une crédence très déco. Je vois depuis des années que la gamme se développe, ça se vend bien ça aussi ?
Oui, bah en fait, ce produit-là, on l'a tout de suite développé et décliné dans nos collections pour un type de clientèle qui n'était pas apte à poser du papier peint parce qu'ils devaient repartir dans pas longtemps, mais qu'ils avaient adoré le dessin et du coup, ils voulaient avoir quand même un produit de cette collection. On propose aussi un adhésif repositionnable. Du coup, il peut s'enlever, se remettre. Et du coup, on a compris qu'il y avait le décor n'était pas que sous forme de papier peint. Donc on a voulu décliner, proposer, et chacun trouve son besoin en fonction de l'espace qu'il peut avoir.
Est-ce que vous proposez aussi des stickers un peu géants ? Vous remettez vraiment au goût du jour ? Le sticker n'est pas mort.
En tout cas, on essaye qu'il le soit pas, parce que le sticker, c'est vrai, on a eu une tendance sur des stickers découpés avec des formes où la créativité, l'originalité c'était essoufflé. Et là, on prône le dessin et ensuite on l'applique sur différents supports.
Est-ce que vous avez des bests chez Peppermint? De quoi les gens ont envie en ce moment? Qu'est-ce qu'ils achètent le plus?
Alors, en ce moment, on a vraiment un décor, la fresque toscane, qui fonctionne très bien et qui plaît à différents types de clientèle. C'est assez impressionnant. Mais le best chez nous, c'est le 1925. C'est un décor art déco qui, lui, on a l'impression qu'il devient un peu intemporel. Voilà, c'est un peu la création qui arrivait comme ça, sans prétention, et qui a fait ça.
Est-ce que vous avez un motif chouchou?
J'ai du mal parce qu'en fait, c'est plein de petits bébés qu'on a créés. Et du coup, c'est difficile, comme si on demandait choisir son enfant. mais en fait, je suis toujours excitée aussi par les nouvelles créations qu'on est en train de faire. Là, par exemple, on est en train de travailler une fresque assez tropicale qui s'inspire de l'Amazonie. Et voilà, je vais être excitée aussi par les nouvelles créations, parce que c'est aussi ce qui est épanouissant.
Donc justement, en termes de création, comment maintenant on crée un motif? Comment vous faites? Quel est le procédé créatif?
C'est ce que je disais tout à l'heure. On va d'abord échanger sur l'idée, sur l'envie. On travaille nos décors par les envies. C'est-à-dire qu'on va se réunir, on dit bon, on a envie de faire quoi? Il y a certaines idées qui vont être plus retenues que d'autres. Et de ces idées-là, on commence à travailler les recherches graphiques, plastiques et les inspirations. On essaye de puiser dans tout ce qui peut nous entourer. Moi, j'adore l'aspect plastique des choses, les matières, mais en même temps des références artistiques, historiques qui permettent d'enrichir son catalogue. De toutes ces inspirations, je ne sais pas comment dire, ça va faire un mélange, un mix, et on va en créer soit une forme, soit une illustration.
Et c'est vous dessinez?
Moi, je dessine les dessins. Je travaille, maintenant que l'équipe grandit, j'ai des graphistes avec qui je travaille en interne. Et j'ai aussi mon chéri qui dessine. Je le pousse à dessiner sur les grandes fresques. Donc, par exemple, pour les fresques, on travaille ensemble sur la maquette. On va la dessiner. Et ensuite, je lui donne le bébé pour qu'il puisse dessiner et continuer l'illustration.
Vous parliez d'inspiration. D'où viennent vos influences?
J'ai l'impression que je collecte des images tout au long de ma vie. Et à un moment, ces images, elles ressortent. Mais je ne saurais pas dire quel est le processus.
Mais vous les avez dans votre tête, les images? Ou vous déchirez les pages de magazine?
Ouais, souvent, je prends en photo avec mon téléphone. Je dis, tiens, ça j'aime bien. Et je ne sais pas, je le garde quelque part. Souvent, c'est numérique. Mais après, même de mémoire, je me dis, ah, j'ai vu cette forme et... J'avais fait un dessin comme ça, je m'étais baladée à Venise et il y avait des grilles avec une forme et c'était magnifique. Et je me dis, ah, mais faut que cette forme elle puisse être traduite autrement, et voilà, ça peut venir comme ça.
Et votre palette de couleurs?
En ce moment, elle est bleue et verte. C'est vrai que je suis contente que ces couleurs soient ressorties dans la déco. On dit que le vert dans la déco, c'était pas possible, c'était interdit. Je dis, non, c'est trop bien.
Vous vendez aussi des tissus avec les motifs des papiers peints. Vous avez envie de vous diversifier ou ce sont des demandes que vous avez eues?
On a eu la volonté de se développer dans le tissu, mais ça a été surtout accentué par une demande d'un client, d'un architecte pour un hôtel, qui a permis de commencer le pas sur le tissu.
Et maintenant, vous en vendez
On vend au maître une sélection de nos décors, et on fait aussi du sur-mesure pour des projets avec, encore une fois, un support différent en fonction des besoins.
Et vous avez aussi une collection maison, j'ai vu, avec quelques coussins, miroirs. Vous avez envie d'aller vers ça aussi?
L'idée, c'est qu'on propose souvent des ambiances qui vont avec nos papiers peints, et le public, il a envie de conseils et d'être aiguillé dans une sélection. Donc on essaye d'apporter aussi l'environnement, l'ameublement ou la petite décoration qui peut matcher avec les décors.
Alors pour imaginer encore mieux vos journées, on va inventer une semaine type ensemble avec des créneaux. Vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment-là. Par exemple, que faites-vous le lundi à 14h?
Alors le lundi à 14h, souvent c'est le jour des réunions et des points pour pouvoir bien lancer la semaine. Souvent je passe à l'atelier pour m'assurer avec les équipes des objectifs, des productions à faire, ou s'il y a des imprévus et comment on peut fixer ça pour la semaine.
Le mardi à midi.
Mardi à midi, on est en train de parler des nouvelles gammes, des nouveaux produits ou des produits en cours, ou éventuellement une opération ou un salon qu'on doit préparer.
le mercredi à 15h.
Alors, le mercredi à 15h, je pense qu'il est normalement prévu pour la création, mais souvent, il y a quelque chose qui vient perturber la semaine et c'est plutôt, on gère l'activité du moment.
Le jeudi à 20h.
Alors, moi, je fais pas mal de sport. Je fais du softball.
C'est quoi du softball?
C'est comme du baseball, mais c'est du softball, c'est-à-dire qu'il y a quelques règles différentes, la balle. Donc, je suis au sport.
Le vendredi à 11h.
Et le vendredi à 11h, on essaye de boucler la semaine dans le sens s'assurer qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire et projeter pour la semaine d'après.
J'en reviens à la relation avec votre père. Quelle est la répartition de vos rôles?
Alors aujourd'hui, mon père va plus s'occuper de la partie développement commercial et moi de la partie création-production. Même si tout ce qu'on fait, on le partage, on l'échange. C'est vrai qu'on coopte et on co-décide vraiment tous les deux sur tous les sujets. Après, on a plus notre domaine de prédilection. Mais
vous êtes associé?
Oui, complètement.
Donc il n'y a pas de rapport hiérarchique entre vous?
Non, mais souvent il dit c'est moi la chef, hein, pour rire, mais on est vraiment associés tous les deux au même niveau.
Ouais. Et vous, comment vous ferez votre place de fille? Ça ne change rien?
Si, ça change certainement quelque chose. Après, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et ça fonctionne parce que on parle, on discute, des fois on n'est pas d'accord et on doit se mettre d'accord. Et on avance comme ça et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne et on a confiance en nous, donc en l'un, en l'autre, en nous. Parce que souvent les gens nous disent « mais c'est comment travailler avec son papa ?» Je dis pas... C'est comme travailler avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que la relation, elle est différente, mais...
Et c'est presque plus facile, on peut peut-être dire plus facilement les choses à son père qu'à un associé.
On les dit de manière peut-être plus directe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a confiance, c'est que tout ce qu'on fait, c'est pour avancer. Il n'y a pas de bataille pour faire mieux que l'autre ou
Il n'y a aucune compétition.
Non, au contraire, on s'entraide... Et certes, à des positions différentes, ça reste mon papa, je reste sa fille, mais c'est un vrai travail d'associé.
Et chez vous, il y a du papier peint partout?
Alors, il y a du papier peint partout parce que souvent, je fais l'appartement témoin pour voir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, là, on est en pro et il faut qu'on le change.
Quel est votre style déco, justement? Comment c'est chez vous?
C'est assez rétro. J'aime bien les vieux objets. Ouais, je chine beaucoup.
À quel âge vous avez trouvé votre style déco?
Je dirais il y a une dizaine d'années. Je pense que mon appartement, ça fait 5 ans que je vis avec mon amoureux. Il a toujours été un peu comme ça, avec plein de petites choses partout. Lui, je crois qu'il aimerait bien que ce soit tout blanc. mais c'est vrai que je suis attachée à l'artisanat, aux objets.
Quelle est la pièce que vous préférez chez vous? Est-ce qu'il y a un petit endroit qui vous ressemble ou dans lequel vous vous sentez particulièrement bien?
Le salon.
Parce qu'il ressemble à quoi?
Une brocante. Il y en a partout et du coup j'aime bien et on est sous les toits, on est bien.
Vous changez souvent votre déco?
Non, j'apporte au fur et à mesure des pièces, soit ça peut venir d'un voyage, soit ça peut venir d'une balade, soit aussi j'ai pas mal d'amis qui créent, donc du coup il n'y a pas d'unité, mais c'est ce qui
nous ressemble. Quel est votre dernier achat déco?
Alors, le dernier achat, un tapis, un grand tapis pour le salon, tout vert, assez 70s, c'est osé, mais j'aime bien.
J'allais dire, le plus fou que vous ayez fait, c'est ce tapis, non?
Oh, il pourrait être dans le top 3. Ouais, je vais le mettre.
Et un achat que vous regrettez?
Je dirais le placard, pas très joli le placard.
Et celui dont vous rêvez?
Je rêve... j'en rêve pas, en fait. J'en rêve pas. Non, j'ai pas de... Je suis bien, là.
Est-ce qu'il y a des figures de la déco ou du design que vous admirez?
Moi, par exemple, c'est pas en ce moment, mais il y a l'exposition Vasarely. Et il m'a toujours impressionnée. C'est la technique, le savoir-faire et ce qu'il arrive à créer avec sa peinture.
Vous avez un métier qui est créatif. Est-ce que vous préférez travailler donc avec de la musique, des podcasts ou rien du tout?
Dans un premier temps, j'aime bien être dans le silence. Pour la réflexion, vraiment. Et après, quand on est sur vraiment l'illustration, le dessin, et qu'on doit vraiment créer. Et là, j'aime être dans le bruit, dans le, voilà, qu'il y ait des gens avec qui je puisse aussi parler, et la musique joue beaucoup.
Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill. Question à 47 euros, le prix d'un pot de peinture Peppermint et Mercadier. Mm-hmm. On n'en a pas parlé, mais c'est ce que vous proposez aussi. Il y a des expressions emblématiques pour la pose du papier peint et de la peinture. Alors vous, est-ce que vous préférez maroufler ou dégager les angles?
Maroufler, c'est trop bien de chasser les bulles.
Question à 59 euros, le prix d'un rouleau Freda Peppermint. Donc c'est la grande mode d'habiller les murs avec du papier peint, de la peinture, des cadres. Et vous, au sol, vous êtes plutôt team parquet, moquette, tapis?
Parquet.
Question à 65 euros, le prix pour une place de concert. J'ai honte de cette question, mais je suis obligée de vous la poser. Vous vous appelez Alexandra Bruel. Est-ce que vous connaissez Patrick Bruel?
Pas encore.
Merci beaucoup, Alexandra.
Merci.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.